France Culture.
Au-delà de l'atome. Épisode 2. CERN, le plus grand détecteur de particules au monde. Tony Ayer, Gilles Mardi-Rossian.
Là, vous, ce matin, vous portez un sweat, un super sweat. Dans votre dos, il y a marqué « Mapping the secrets of the universe ». Ça veut dire réaliser la carte des secrets de l'univers.
Exactement, oui. C'est ce qu'on fait ici au CERN. On fait ce qu'on appelle la recherche fondamentale. Ça veut dire qu'on essaye d'expliquer comment le monde a été fait, créé, l'univers, quels sont les secrets de l'univers. On n'a pas toutes les réponses à ce jour, mais petit à petit, je pense que ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver en fait la carte, de trouver le point de fonction, comment l'univers a été créé, comment il fonctionne jusqu'à maintenant. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant, important. Et j'ai choisi d'étudier la physique parce que c'était une façon de moi de rêver. Et ça, c'est très sincère. C'était une des choses qui, je veux dire, c'était une des sciences qui m'a permis de rêver.
C'est-à-dire de rêver vraiment la nuit, de rêver.
De rêver vraiment la nuit, oui. On peut rêver aussi avec les yeux ouverts, hein, ce qu'on fait plusieurs fois, en tout cas. On peut rester dans notre bureau et rêver.
Avec moi, la première fois que j'ai décidé que je voulais faire de la physique, ce que je pensais que c'était la chimie à l'époque, c'est la première fois où j'avais 12 ans et on m'a expliqué l'atome. Et j'ai compris qu'il y avait des choses que je ne voyais pas, mais qu'il était là et qu'il expliquait des choses. À ce moment-là, peut-être avant aussi, mais je voulais savoir plus. Et toutes les autres disciplines étaient bien, mais c'était, on regarde dans la fenêtre et on voit. Et celle-ci, c'était quelque chose dans laquelle il fallait vraiment s'abstraire. Je ne sais pas, c'est, vous dites, le vertige d'avoir quelque chose que tu ne peux pas voir, mais que tu sais qu'il est là et qu'on peut te prouver qu'il est là. Et c'est prouvé, plus comme tout le monde, on touche, on voit, mais c'est prouvé autrement. Après, quand je suis allée vers l'université, j'ai toujours étudié la physique, je suis arrivée aux derniers cours. Et dans les derniers cours, on a appris les modèles standards, ce qu'on appelle la quantum chromodynamics. Et c'est quelque chose de très abstrait, basé sur des mathématiques un peu forcées, mais moi j'aime les mathématiques, à ce moment-là, j'avais déjà en préférence. Et ça t'a montré comment, par des symétries de l'univers, tu pouvais former des particules. Et ça expliquait pourquoi les particules étaient comme elles étaient. Et là, j'ai trouvé que je pouvais rentrer dans ce monde et ne plus en sortir, si vous voulez ce que je veux dire.
Moi, je rêvais toujours. J'étais dans un programme et j'étais dans des loops qu'on dit infinis. Et je faisais des boucles infinies et je faisais des opérations consécutives pour arriver au résultat. Parfois, je rêvais le résultat. Et le lendemain, je suis allée au bureau et je trouvais une solution.
Bohr, Marie Curie, Einstein. Les noms des rues de ce petit village sécurisé défilent alors que nous roulons en voiture. Nous sommes au CERN, avec Rosie Nicolaïdou, physicienne au CERN au département Faisceau, et Nuria Catalan-Lacheras, physicienne au CEA travaillant sur l'expérience Atlas auprès du LHC. Devant nous, au loin, la barre du Jura, dont les contreforts se décorent de vignes, de champs. À cheval entre la France et la Suisse, le Conseil européen pour la recherche nucléaire est le plus grand centre de physique des particules au monde. Par la fenêtre, des bâtiments gris, quelconques et anonymes, dépassent rarement le deuxième étage. Mais si la banalité de la surface me déçoit un peu, je sais que c'est loin sous terre que quelque chose nous attend.
Ici ou à l'intérieur, du coup?
Ici? Ok. Alors, je m'appelle Antonella De Rosso et je suis responsable de la communication au département de l'informatique au CERN. Ce qu'on voit ici, c'est en fait le data center, donc le centre de calcul du CERN. On est vraiment à l'intérieur. C'est ici que toutes les données produites par les expériences au CERN, il y en a plusieurs, mais surtout les quatre expériences du grand accélérateur de Hadron, donc le LHC, arrivent. Et quand les données arrivent ici, eh ben, elles sont stockées sur disque d'abord et on fait deux copies. Et après, les données sont envoyées vers le WLCG, donc le World LHC Computing Grid, donc la grille de calcul, qui est une fédération, si vous voulez, de centres de calcul qui se trouve dans 40 pays différents. Donc, il y a 170 centres de calcul dans le monde qui participent à cette grille de calcul pour le stockage des données du LHC. Après avoir fait deux copies des données, les données sont aussi stockées sur bandes magnétiques. Et ces bandes magnétiques sont en fait au rez-de-chaussée du centre de calcul.
Voilà. Pourquoi la bande magnétique ?
Ici, chaque semaine, on perd entre 20 et 30 disques, alors que les bandes magnétiques sont vraiment très stables. Et elles sont aussi moins chères au niveau de ce qui vous coûte le stockage d'un petabyte, par exemple.
Alors, moi, je vais avoir besoin que vous m'expliquiez ce que c'est qu'un petabyte et qu'on ait des ordres de grandeur.
Vous me laissez réfléchir en deux minutes parce que l'ordre de grandeur par rapport à quoi ?
Le plus communément chez moi, par exemple, quand j'ai un disque, je vais avoir un disque de 500 gigas, je vais avoir un disque de 1 tera par exemple.
Quand vous dites giga, c'est gigaoctet.
Gigaoctet, tout à fait.
Donc ici, les expériences du LHC nous envoient plusieurs petabytes par jour quand elles sont à leur maximum. Et un petabyte, en fait, c'est 1 million de gigabytes par jour. Ça veut dire que par minute, on fait 1 terabyte, donc 1000 gigaoctets.
Alors, j'ai lu assez récemment que le CERN avait compilé, ou allait compiler, je ne sais pas où vous en êtes précisément, mais 1 hexaoctet. Et 1 hexaoctet, d'après ce que j'ai compris, c'est 1 milliard de gigas. Comment est-ce que on peut imaginer par la suite que ça puisse encore grossir?
C'est très compliqué et ce n'est pas compliqué que pour nous, dans le sens où quand vous dites hexabyte, hexaoctet, là vous rentrez dans des volumes de données vraiment, vraiment très importants. Et nous avons déjà plus d'un hexaoctet de capacité de stockage. Maintenant, on n'a pas encore utilisé toute cette capacité. On va le faire bientôt à la reprise du LHC. Quelques semaines après, on s'attend à avoir un nouveau record en termes de données vraiment stockées sur bande magnétique. Donc, les facteurs qui limitent vraiment la possibilité d'accumuler une quantité infinie de données sont liés à la consommation d'électricité et à la consommation de volume que vous avez à votre disposition. Donc, quand on est rentré dans le centre de calcul, on a eu chaud. Parce que ici, la température, elle est gardée à environ 26 degrés. Parce qu'on a vu que la durée de vie des supports, donc des disques, des bandes magnétiques, elle ne s'améliorait pas plus que ça quand on descendait la température, ce qui nous coûte plus cher. Si vous voulez, il nous manque, pas que à nous, mais il manque la technologie pour vraiment mettre beaucoup de données dans des supports très petits en termes de volume et très peu gourmands en termes d'énergie. Alors, on ouvre maintenant la porte, une première porte qui nous amène à l'intérieur du centre de calcul. Et là, maintenant, la deuxième porte, et là, le bruit va devenir important. En fait, ce qu'on entend maintenant, tout ce bruit, c'est en fait le bruit des ventilateurs qui sont à l'intérieur des disques. Parce qu'ici, on stocke les données sur disque. Et il y a des milliers de ventilateurs qui fonctionnent en même temps. Du coup, le bruit que vous entendez. Ce qu'on voit ici, C'est des couloirs qui sont pratiquement tous pareils, mais qui montrent justement ces placards qu'on appelle racks, où on loge tous les disques qu'on utilise pour stocker les données.
Comme ça, approximativement, combien de disques il y a ici ?
Autour de 150 000. C'est énorme.
Vous pouvez me décrire la pièce, la hauteur du tour ?
On est dans un volume important ici. Les centres de calcul sont des bâtiments énormes. Donc, autant en hauteur qu'en longueur en largeur.
Depuis le temps des Grecs anciens, c'est en fait Démocrite qui avait parlé de l'atome. Et atome, dans la langue grecque, ça veut dire l'unité qui est incassable. Donc, déjà, en Grèce ancienne, il y avait cette conception de plus petit qui était incassable. Et à partir de ce plus petit incassable, qu'on pourrait former le reste, tout le monde. Donc déjà, ça, comme conception, c'était pensé. Après, bien évidemment, il nous a fallu des siècles et des siècles pour pouvoir aussi prouver et voir qu'est-ce qui était incassable et qu'est-ce qui pourrait être divisé dans des plus petites parties. Et en fait, toute cette connaissance est assez récente, parce que c'était au XXe siècle qu'on a eu la connaissance ultime qu'on a maintenant de l'atome. Que l'atome, il y a les électrons qui tournent autour d'un nucléus, et que dans le nucléus, il y a des protons et des neutrons, et ces protons ne sont pas des particules élémentaires, mais ils se composent des particules qu'on appelle quarks, qu'on ne peut pas voir libres, mais qui font des paires en deux ou en trois et qui forment d'autres particules. Donc, toute cette connaissance-là, c'était en fait prouvé et vu pendant le XXe siècle. Donc, c'est très récent. Donc, maintenant, nous, tout ce qu'on fait au CERN dans la physique des particules, c'est pour remonter le temps. Remonter le temps pour aller vers tous les premiers instants de l'univers. Qu'est-ce qui s'est passé très proche après le Big Bang, après la grande explosion, la création de l'univers? On a une façon maintenant qu'on connaît pour remonter en temps, c'est de monter en énergie. Donc monter en énergie et pouvoir reproduire l'environnement et les conditions qui existaient aux tout premiers instants de l'univers. Si tu veux, c'était comme une soupe de particules qui voyageait. Donc, on voudrait savoir comment après, au lieu d'être seul et de voyager seul, ils se sont formés pour faire des atomes, pour faire des molécules, des planètes, des galaxies, pour créer tout ce qu'on voit autour de nous. Notre quotidien, dans la physique de particules, on parle des accélérateurs et on parle des détecteurs. On essaye de reproduire des particules qui existaient aux premiers instants de l'univers. Bon, on va arriver bientôt dans la salle de contrôle du LHC. En fait, on est sorti du côté suisse du CERN et on va maintenant aller à côté français. Et en fait, on roule dans une rue assez calme et que, bon, à droite et à gauche, il y a des jolis arbres qui datent de pas mal d'années. Mais ce qui est aussi important de souligner, c'est que en dessous de nous, il y a l'anneau, en fait, ce qu'on appelle l'accélérateur des particules. C'est un anneau de 27 km de circonférence et qui se trouve, un quart se trouve en Suisse et les trois quarts se trouvent en France. Et se trouve à peu près à une centaine de mètres sous terre.
En fait, quelque part, on peut dire que les différents bâtiments du CERN se trouvent répartis sur cet anneau-là?
Non, une partie sont répartis sur une petite partie de cet anneau-là. Mais il y a une grande partie, j'aurais dit trois quarts, qu'en surface, il y a des maisons, des citoyens. Donc voilà.
On va rencontrer une collègue qui s'appelle Nouria Catalan et qui est experte du LHC et qui va nous expliquer en mots simples comment le LHC fonctionne.
Ouais, ils sont badgés et juste en bas, ça va vendre ça.
Ouais.
La quantité, c'est ça?
Ouais. Très bien.
Alors. Voilà.
Eh ben, très bien.
Merci, monsieur.
Attention, les doigts.
Merci. Bonne journée.
Donc là, on vient de rentrer à nouveau dans le CERN, alors qu'on a été sorti. On a fait à peu près 5 km, c'est ça?
Oui.
Ok.
Exactement.
Et vous me dites, vous étiez en train de me dire que l'anneau se trouvait à peu près à
100 mètres sous terre.
C'est vrai que moi, je trouve ça fascinant de se dire que l'anneau se trouve en dessous de nos pieds.
Oui.
C'est comme un peu un vaisseau, quoi. C'est comme quelque chose qui a enterré... Moi, je trouve ça complètement fascinant de se dire qu'à 100 mètres sous nos pieds, alors que voilà, il y a un bus, enfin tout le quotidien en fait, le réel tel qu'on le connaît, là, se trouve sous nos yeux. En dessous de nous, il y a des protons qui voyagent à la vitesse, presque à la vitesse de la lumière, quoi.
Exactement.
C'est quand même pareil. Hein.
Oui.
On va aller à la salle de contrôle du LHC, qui est le dernier accélérateur du CERN, le Large Hadron Collider. Et on va voir comment maintenant on accélère les particules, on crée de nouvelles particules et on étudie. Qu'est-ce qu'on fait?
On aurait dû te le dire. Les Français me disent que je parle trop vite. En français, c'est pas
mal. Moi, je parle aussi très vite. Hein.
En espagnol, ma mère ne comprend pas. Bon, elle est lente. Ok.
Alors.
Je me présente. Mon nom, c'est Nouria Catalan Lasseras. Je travaille au CERN depuis 30 ans. Toujours dans les domaines des accélérateurs. Je fais beaucoup de choses dans beaucoup de domaines différentes techniques. Et j'ai participé, entre autres, vers les 2008-2007, sur le démarrage du LHC, à cette salle de contrôle que vous pouvez imaginer. En fait, elle ressemble à la taille d'une salle de fête, mais il y a au milieu une petite table de réunion. Et aux quatre coins, on trouve ce qu'on appelle les cils. Les cils, ce sont des semi-cercles, plus qu'un semi-cercle, dans lesquels il y en a plusieurs postes, en général 400 postes, chacun avec ses quatre écrans plus. Dans chaque île aussi, il y en a 6-9 grands écrans, comme des grosses télés dans les murs. Et ça nous permet de voir, en fait, la situation de chaque machine. Ces quatre îles contrôlent, en fait, ce qu'on appelle les injecteurs, les LHC lui-même. Et on a une autre île qui s'appelle l'île technique, où on contrôle la cryogénie, l'électricité, toutes les infrastructures de ça. Les LHC se trouvent sous nos pieds. En fait, comme je vous ai dit, ça fait 27 km de circonférence et il est enterré en moyenne à 100 mètres de profondeur. Il y a des parties qui sont jusqu'à 140 mètres de profondeur en dessous des montagnes. Et là, on trouve un tunnel qui fait à peu près 4 mètres de diamètre, dans lequel on a un passage. Et de l'autre côté, on trouve les tubes bleus, que peut-être vous en avez vu à la télé, et beaucoup d'autres tubes. Ça, c'est l'accélérateur en lui-même. C'est ce qu'on appelle des cryostats. Ce sont des enceintes très froides, à moins 261 degrés, dans lesquelles il y en a des aimants très puissants qui sont... des centaines de millions de fois les champs magnétiques de la Terre. Et dans ces aimants, il y en a deux tuyaux. Et dans les deux tuyaux, il court les protons en direction contraire, dans une vide qui est 100 milliards plus vide que l'atmosphère terrestre, et beaucoup plus vide, enfin plus de 10 000, je pense, fois plus vide que l'univers.
Dans ces deux petits tuyaux,
on
fait un vide, un ultra-vide, pour qu'il n'y ait absolument aucune molécule d'air.
Exact. Pour que les
protons, ne percutent pas ces molécules d'air, que la voie soit complètement dégagée.
Ouais.
Et il y a beaucoup plus de vide que dans l'univers.
Moins vide, parce que le vide, c'est négatif. Ouais. Il y a en fait beaucoup moins de molécules que tu trouverais dans l'univers. Des milliers de fois, des moins. Donc, il est beaucoup plus improbable de percuter une molécule sur les LHC que de percuter une molécule dans l'espace. Donc, dans cette vide, il faut penser que chaque proton, il passe 11 000 fois par seconde. C'est pour ça que c'est en fait un énorme trajet que ces protons doivent voyager. Donc, chaque paquet de protons, et chaque proton lui-même, il va faire 11 000 tours par seconde. Mais il y en a plus de 3 000 paquets dans la machine à tout moment. C'est-à-dire, dans un détecteur, on trouvera plus de 400 000 collisions des paquets par seconde. Et ça, ça a beaucoup de stress aussi sur les computing et tout ce qui est l'analyse des données.
En fait, ce sont des trains de paquets de protons.
Ce sont des trains.
Comme des wagons.
Parce que les trains sont formés dans les injecteurs.
11 000 tours par seconde, on est à quelle vitesse à peu près ?
La vitesse de la lumière, à peu près.
Alors, à peu près, mais on l'atteint pas.
On ne l'atteint pas.
On
ne l'atteint pas parce que, comme il dit Einstein, la masse, c'est proportionnel à la vitesse. Et en fait, plus tu as de vitesse, plus tu acquiers des masses. C'est-à-dire, si tu prends une particule et tu l'accélères, elle va être plus lourde, ce qui va te demander plus d'énergie pour accélérer, et elle devient encore plus lourde, ce qui va demander plus d'énergie, et c'est un cycle comme ça. Ce qui fait qu'en fait, pour atteindre la vitesse de la lumière, la masse va être infinie. Et il faudrait donner une énergie infinie pour ça. En fait, il y a des lois de physique qui disent que jamais on peut atteindre la vitesse de la lumière.
Et ça, Nouria, ça veut dire que l'infini n'est pas possible. Il y a une limite.
Il y a une limite. Et en fait, si on suit les lois de physique chimérique, si on dit, s'il y en avait des particules qui pouvaient aller plus rapide que la vitesse de la lumière, ils seraient en masse négative et on ne pourrait jamais communiquer avec elles. Ça serait,
Communiquer avec elle ?
Oui, parce qu'on communique toujours avec la lumière. La chose la plus rapide pour communiquer, c'est la lumière.
On ne pourrait pas la voir.
On n'aurait pas d'information.
L'information
la plus rapide qu'on a, c'est la lumière, parce que c'est la chose qui va la plus rapide au monde. Si on avait quelque chose qui était plus rapide que la lumière, on ne pourrait jamais la voir, on ne pourrait jamais l'atteindre. Si vous pensez aux observations astronomiques, ça se fait avec la lumière qui voyage depuis les astres. Mais s'il y avait une planète qui allait plus rapide que la lumière, sa lumière ne s'atteindrait jamais, donc on ne la verrait jamais.
E égale mc2.
Mm-hmm.
Donc, tout le monde connaît cette formule, mais peu de gens savent en fait ce qu'elle veut dire. Grand E, énergie.
Énergie totale, oui.
Énergie est égale à petit m, la masse, fois c au carré.
Ouais.
C au carré, c'est la vitesse de la lumière.
Ouais.
Donc c'est-à-dire que énergie égale la masse fois la vitesse de la lumière.
Ouais.
Ça veut dire que plus on porte une masse à une vitesse haute, plus elle va gagner de l'énergie.
On met beaucoup d'énergie pour augmenter la masse et la vitesse en même temps.
Pourquoi est-ce qu'on veut augmenter la masse ?
Plus la masse est grande, plus on a la possibilité dans une collision d'en produire toute autre particule qui pourrait exister.
On porte les protons à une énergie conséquente pour obtenir plus de masse dans la collision.
Oui, exact.
On va parler un peu de chiffres et de vertige de chiffres.
D'accord.
Ok.
Encore ce vertige des chiffres.
Moi, j'ai 10 000 milliards de
fois. Milliards, c'est 10 moins 9.
10 000 milliards.
Alors, accrochons-nous. Ok, reprenons. Tout part d'une bouteille d'hydrogène. En fait, le circuit des protons se divise en 5 étapes. Étape 1. Depuis une bouteille d'hydrogène, des protons sont produits dans une machine en surface. Le LINAC 4. Ici, on fait ce qu'on appelle des paquets de protons. Étape 2. Toujours en surface, les paquets sont envoyés dans un booster qui commence à les accélérer. Dans l'étape 3, les protons passent dans le synchrotron à protons, un anneau de 600 mètres de circonférence. Les paquets accélèrent encore. Étape 4. Ils descendent sous terre et sont envoyés dans le super synchrotron à protons, un anneau souterrain de 6 km de circonférence, à cheval entre la France et la Suisse. Enfin, la dernière étape d'accélération consiste à envoyer les paquets de protons dans un double anneau circulaire de 27 km de long, le LHC. Le LHC, c'est une sorte de grand canal métallique de 40 cm de diamètre qui contient deux tubes jumelés. Si les particules croisent de l'air, elles sont déviées. Alors on fait l'ultra-vide, un vide plus vide que dans l'espace. Une pression 10 000 milliards de fois moins importante que sur Terre et un refroidissement cryogénique de moins 271 degrés. Comme sur une autoroute à double sens, 2808 paquets de protons voyagent sur chaque voie. Dans chaque paquet, 115 milliards de protons, 1,15 fois 10 puissance 11. À ce stade, ils sont si nombreux qu'ils dessinent deux trains, deux faisceaux. Tout au long de ces deux tubes, les faisceaux accélèrent grâce aux presque 10 000 électroaimants supraconducteurs répartis dans les deux tubes de 27 km. C'est là qu'ils atteignent une vitesse de 11 200 tours par seconde. Une vitesse proche de celle de la lumière.
Il y a quelque chose qui, moi, me fascine, c'est comment est-ce que on passe de l'impensé au pensé. J'aimerais que vous me parliez des mathématiques et de la manière dont les physiciens peuvent se servir parfois des mathématiques pour formaliser. Formaliser, donc donner une forme à des concepts. Par exemple, l'infini. L'infini, pour vous, ça peut être le facteur d'une équation. Pour moi, l'infini, c'est un abîme. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas se représenter. Et donc, j'aimerais que vous essayiez de me dire, m'expliquer comment en physique, une partie du travail, ça peut être d'essayer de donner une forme à quelque chose pour travailler dessus.
Conceptualiser, c'est difficile. Et on dit que l'univers, par exemple, il y a l'expansion de l'univers. Donc, il y a de l'espace infini dans cette expansion, parce qu'il peut s'étendre éternellement. Donc, ça veut dire que l'espace doit être infini. Qu'est-ce que ça veut dire que l'espace est infini? Je ne peux pas répondre à cette question. Vous, comment vous le ressentez? Moi, je ne le ressens pas. Les mathématiques, on les utilise tous les jours. C'est l'outil de mettre en forme les lois de la nature. Ça nous aide aussi d'avoir une sorte de formalisme qui nous permet de concrétiser l'idée qu'on a quand on veut répondre à une question. Le temps d'existence des particules dans là, c'est extrêmement court. Pour un être humain, le temps, par exemple, d'une seconde ou d'un millième de seconde, peut-être qu'on peut le comprendre. Mais si on va dans des temps beaucoup, beaucoup plus courts, après, on ne peut pas vraiment comprendre de quoi il s'agit. Et le temps de la plupart des particules dans la classe, on parle de ce temps, de millième, de millième, de millième de seconde. Ah, par exemple, une particule dans la classe vit 0,23 ou 25 euros de seconde. Donc, vous voyez, c'est un temps extrêmement court. Pour nous, c'est comme si c'était un temps zéro pour l'être humain. Mais quand même, ça existe. Mais avec la physique et la mathématique, on peut vraiment, comme être humain, extraire cette contradiction qu'on ne comprend pas avec nos sens de quoi, ce chiffre qui est extrêmement petit, mais il est là. Après ce temps-là, les particules ne sont pas stables et ils se soit il se désintègre, il traverse le détecteur, il laisse leur trace, et après, je ne veux pas dire il meurt, mais il laisse leurs empreintes dans le détecteur, et après, nous, on les détecte. Donc, c'est un temps extrêmement court. Et la technologie nous permet de construire des machines et des appareils qui ont une précision, qui peuvent distinguer ce très petit temps. Et donc là, ça marche, même si on ne peut pas vraiment le comprendre comme être humain. On ne peut pas le ressentir parce qu'on est, comme être humain, on a des limites. On a des limites qui sont gouvernées par notre corps, par nos sens. Et là, le cerveau humain n'a pas ces limites là. Donc c'est pour ça qu'on a pu formaliser tout ce qui nous entoure, malgré le fait que peut-être une galaxie se trouve dans des distances colossales de nous, où on a pu imaginer comment l'univers a été créé, et on l'a mis en évidence après. C'est grâce à notre cerveau qui n'a pas eu ces limites-là. On peut peut-être aller dans la salle de contrôle d'Atlas, si vous voulez. Voilà, on arrive, il faut toujours badger. Ok. Et on arrive dans la salle de contrôle d'Atlas qui se trouve en surface. Donc c'est une salle qui a, comme vous voyez, qui a plein d'ordinateurs. C'est une salle à peu près de 30 mètres de long et 15 mètres de largeur, et où il y a plein d'ordinateurs qui ont un but différent chacun d'eux, de contrôler une différente partie de détecteur Atlas. Au milieu, il y a un monsieur, on entend un peu, qui parle maintenant. Et c'est ce monsieur qui contrôle tout ce qui se passe dans la caverne actuellement pour en fait s'assurer que les personnes qui travaillent en bas sont en bonne santé et il n'y a pas de problème. Donc s'il y a un problème, on va entendre des bruits, de sirènes qui vont sonner, des alarmes qui vont sonner, et il sait ce qu'il doit faire. Mais, ouais.
Là, on entend une alarme?
Là, on entend une alarme, mais c'est quelque chose que ce monsieur-là au milieu qui contrôle tout. Parfois, c'est les gens en bas qui veulent communiquer avec lui pour une raison ou pour une autre, qui travaillent, et donc il lui envoie une alarme. Sur un de ces murs, on projette ce qui se passe dans la caverne.
La caverne. C'est bien comme ça qu'on l'appelle ici. Tout en bas d'un puits de 80 mètres de profondeur, un gouffre de 40 mètres de haut et 55 mètres de long, la caverne renferme le détecteur Atlas. Atlas, c'est un oignon de 22 mètres de diamètre, aussi grand qu'un bâtiment de 5 étages, qui fait 46 mètres de long et pèse 7000 tonnes. Comme un fil, le LHC le traverse en son centre, de part en part. C'est à cet endroit précis que les paquets de protons se rencontrent. Mais à l'échelle d'un proton, la probabilité de créer une collision est mince. Alors il faut multiplier les collisions, jusqu'à 1 milliard de collisions par seconde pour Atlas. Mais seules quelques-unes, parmi ces dernières, possèdent des caractéristiques particulières qui peuvent conduire à des découvertes. Lors de collisions frontales, les particules naissantes se dissipent en une gerbe géante, un feu d'artifice. Avec le temps, Les physiciens et les physiciennes savent reconnaître une particule en fonction de la longueur et de la forme de son trajet dans le détecteur. Cette quête aux particules est une chasse gargantuesque, une chasse à la rareté, celle de nouvelles particules encore méconnues.
Alors, c'est le contrôle.
D'accord.
Je badge.
Là, la porte s'ouvre.
Et après, on doit passer la biométrie.
Oui, c'est chaque comme individu doit être identifié. Vous avez quoi. Vu oui. Le film Gattaca.
Bienvenue à Gattaca. Ouais.
C'est exactement la même chose.
Bonjour. Ah, bienvenue. Oui. Je m'appelle Rachel et je suis physicienne. Je travaille pour l'expérience en classe et je vais vous accompagner au niveau sécurité. Alors, ici, on a le SDX1, c'est le point 1 où on a le détecteur Atlas. Alors, maintenant, on va entrer. Il faut badger le décimètre.
Là, on voit la photo de Louis de Rosy sur l'écran avec marqué « No access ». Et il y a un problème.
Alors, il y a un problème avec le document.
Bah oui, mais...
électroniquement signé.
OK.
Alors, elle ne peut pas accéder.
Donc, on annule tout.
Non. Elle va chercher un token.
Elle va chercher un token, allez.
Je prends mon token.
Oui.
Et je le mets
badiez,
sur la barre.
Oui. Vous gardez les distances. Les distances.
Là, je rentre.
Oui.
Ok, je me mets en sas.
Oui.
Là, je suis dans le sas.
Can you please help us bypass? And also, Rosy is coming to take a token because it's a problem with the impact. Ok, c'est tout bon. Maintenant, pour vous, mettez tout ça. Et à proximité de votre corps, parce que si ça reste en dehors, il sera difficile. On va essayer, mais peut-être on doit utiliser le mal. Seconde personne.
Tu vas dire
jusqu'au.
Oui,
ok.
Alors.
On est devant l'ascenseur. Pour descendre dans la caverne Atlas. Et donc, on va pouvoir, en fait, on va descendre maintenant et on va descendre à presque 100 mètres. C'est 97 mètres.
97 mètres.
Oui. Oui, peut-être qu'il faut voir d'abord, quand on descend, on voit combien de mètres on descend.
Moins 10 mètres. Moins 20. Oh, ça me fait mal. Moins 30. Moins 40, moins 50 mètres, moins 60 mètres.
Si on résume tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, depuis une bouteille d'hydrogène, on prend les protons qui nous intéressent et après on les met dans une machine qui s'appelle LHC. On leur donne d'énergie. On les fait circuler dans cet anneau de 27 km de circonférence, comme si c'était un train avec plusieurs wagons, et wagons qui contiennent des milliards de protons, et on les fait circuler dans le sens opposé, donc on appelle faisceau de protons. Et une fois qu'ils ont acquis l'énergie qu'on veut, on les fait collisionner, ce qu'on dit. On les fait l'une entrer dans l'autre pour étudier les produits de cette collision. Les produits de ces collisions ne sont pas des parties, des bouts de protons, mais c'est tout à fait des nouvelles particules qui sont créées parce qu'on a cette fameuse formule d'Einstein qui dit que l'énergie devient masse et la masse énergie. Donc, à partir des protons, on crée des nouvelles particules qui n'existaient pas avant. Chaque particule quand ils créent dans des collisions, laissent certaines sortes de traces dans ces détecteurs. Et en essayant de suivre les traces de chaque particule, on comprend quel type de particule était créée.
Si on repense ce qui se passe au centre du détecteur Atlas, c'est que des paquets de protons vont se rencontrer. Certains ne se rencontrent pas, certains se rencontrent. Il y en a énormément qui ne se rencontrent pas, puisque faire se toucher des objets si petits, c'est comme essayer de faire se toucher deux aiguilles qu'on lancerait à 10 km de distance l'une de l'autre, hein, deux têtes d'épingle. Donc il y en a plein qui se loupent, et parfois il y en a qui percutent. On les porte à une énergie si haute et à une vitesse si haute qu'elles acquièrent une énergie très importante. Elles se touchent. Et une sorte d'explosion. De ces explosions naissent des particules. En fait, on arrive quelque part à un moment donné où la matière émerge du vide.
Mais le vide n'est pas vide. Alors, le 4 juillet 2012, on a annoncé la découverte d'une nouvelle particule longuement recherchée par trois physiciens, trois théoriciens, Brout, Englert et Higgs. Cette nouvelle particule est vraiment unique au monde, qui, en fait, c'est un champ qui s'appelle maintenant le champ de Higgs, qui remplit tout le vide, qui remplit tout l'espace et qui est là depuis la création, depuis les premiers instants de l'univers et qui reste là, on ne sait pas pour combien de temps, mais pour l'instant, il est là.
Il est partout.
Et il est partout.
Il est dans le
bureau. Et il remplit, il est dans le bureau, il est dans les montagnes, il est dans la mer, il est partout. Et donc, les particules voyagent dans ce champ et ils acquièrent leur masse. Il devient plus massif s'ils interagissent fortement avec ce champ ou s'ils n'interagissent pas du tout, ils ont de masse nulle.
Alors, si on prend la chronologie, la particule a traversé le champ de Higgs, elle a une masse. Avant d'avoir traversé ce champ, elle a une masse nulle. Et avant ? Elle vient d'où ?
Elle vient de l'énergie de l'univers, de Big Bang. C'est ça. C'est l'énergie qui se transforme après en masse par l'équation d'Einstein. Et cette masse ou cette énergie qui est en pleine expansion, parce que notre univers est en pleine expansion, qui après a formé les atomes, les molécules, les planètes, les galaxies et tout ce qui se trouve autour de nous.
J'ai cherché l'étymologie du mot rien. Et ben le mot rien, l'étymologie du mot rien, il est issu du latin oui. Rem, qui veut dire la chose. Du coup, c'est quand même étonnant. Comment est-ce que on conçoit, pour la physicienne que vous êtes, comment on conçoit l'idée que le vide n'est pas vide? Est-ce qu'on l'imagine simplement mathématiquement ou en représentation de calcul ou de schéma, de représentation, ou est-ce qu'on on doit passer du temps à essayer de le concevoir, à concevoir que c'est cette idée que le vide n'existe pas en fait?
Moi, je l'imagine comme comme la mer. Un océan, en fait. Et j'imagine les particules comme des petits poissons qui sautent de cette surface de la mer et qui sautent quand ils acquièrent une masse. Et après, mon imagination finit. Après, je ne suis plus les particules, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est ça l'image que j'ai fait quand j'ai en fait, étudier, et j'ai compris un petit peu, j'ai essayé de comprendre ce mécanisme. Et depuis le temps où je fais cette image, pour moi, tout était clair. Tout était clair dans ma tête. Je ne sais pas si c'était clair pour les autres. Donc il n'y a pas de vide, ça veut dire il n'y a pas de... Oui, la nature, on dit qu'elle n'aime pas le vide. Cette phrase que la nature n'aime pas le vide, je l'avais entendue dès que j'étais très petite en fait. Je veux dire, j'avais, je sais pas, 6 ou 7 ans, et je me disais oui, bon, peut-être. Je dis oui, peut-être que la nature, oui, n'aime pas le vide parce qu'il le remplit avec quelque chose. Et ce quelque chose, c'est un champ, et ce champ, pour moi, c'est un océan. Et c'était comme une révélation pour moi.
Moins 70 mètres.
Oui.
Moins 75. Moins 80. Moins 89. Moins 90.
Alors
moins
91. Ici.
Ça va très très vite en fait. Et ça ralentit.
Ici, on est au niveau des collisions.
Biometry, please. Minus 2.
Okay. On vient de sortir de la porte et on va voir maintenant le détecteur. Et vraiment, chaque fois qu'on descend, là-bas, on ne peut pas s'empêcher de sentir quelque chose de particulier.
Qu'est-ce qu'on voit ?
Ce qu'on voit... D'abord, il faut que vous
voyiez. Moi, je ne le vois pas encore.
Vous,
donc,
vous ne le voyez pas. On voit une partie du détecteur. C'est immense. On voit des pièces de métal. C'est un endroit avec plein de, si vous voulez, d'échafaudages. On est en train de travailler. Plein de câbles, de tuyaux. C'est immense. Ça fait 25 mètres de hauteur et 46 mètres de largeur.
Et vous, Rachel, ça vous fait quoi?
Alors, c'est impressionnant parce que c'est énorme. On parle de 46 mètres de longueur, 25 mètres de hauteur, pèse 7000 tonnes comme la tour Eiffel. Mais c'est construit pour détecter des particules très très petites, invisibles. Et en plus, avec une précision de micromètres.
On veut savoir où chaque particule est passée avec une précision qui est pareille que la taille d'un cheveu.
À l'échelle de la taille d'un cheveu.
Même si on a travaillé dans ce détecteur pour la construction, la réalisation, parfois on ne le réalise pas parce que c'est un peu en dehors de ce qu'on peut sentir en fait. C'est hors de la conception, oui. Oh, il faut quand même. On doit toujours dépasser notre corps, notre imagination pour ce qu'on fait tout le temps. Et donc c'est pas toujours facile parce que peut-être on est dans notre quotidien, on pense aux problèmes très pratiques, etc. Et tout d'un coup on doit penser aux particules élémentaires, invisibles, qui sont très très petits, qu'on peut pas réaliser comment ils sont petits et ils sont invisibles. Et donc ça fait toujours il y a une contradiction entre ce qu'on fait au quotidien et ce qu'on fait pour le travail.
C'est hors de
et
la,
c'est ça aussi
c'est hors
la,
de la conception.
C'est hors de la conception, oui.
Pour vous, qu'est-ce que c'est que chercher?
Ok. Pour moi, chercher, c'est d'abord répondre aux questions. J'ai une question initiale et j'aimerais répondre à ces questions-là. Et j'ai une démarche, disons, scientifique pour arriver à la réponse. La plupart des fois, on n'arrive pas à une réponse, mais quand même, c'est le chemin qui aussi parfois qui compte. On voit un premier résultat. On est comme des enfants qui on découvre un nouveau jeu et on est hyper content. Et après, il y a 3 ou 4 000 autres questions qui viennent, toujours. Et aussi avoir beaucoup de patience, parce qu'on sait, on ne sait pas a priori si on va trouver la réponse ou si on va arriver à un résultat. Passer des jours et des nuits où on est focalisé sur la question et il n'y a rien d'autre qui nous intéresse. C'est comme avoir un comportement complètement bipolaire. On focalise sur un problème, une question, on oublie le reste. La beauté aussi de faire de recherches, c'est que d'avoir ce côté enfant pendant très longtemps dans notre vie. Et c'est ça qui nous donne toujours la motivation parce qu'on le considère comme un jeu. Et quand le travail qu'on fait c'est considéré comme un jeu, la motivation reste toujours la même. Ça peut être fatigant parfois dans la vie de tous les jours, mais c'est ça la beauté de notre travail. C'est vraiment c'est impressionnant et on reste toujours impressionné. Le moment où on s'arrête à être impressionné par ce qu'on fait, c'est le moment où on doit s'arrêter à faire ce travail. Moi, je l'ai pensé comme ça. Le jour où je m'impressionne pas de ce que je fais, j'arrête. Heureusement, ce jour-là n'est pas encore arrivé. Et j'espère que ça ne va arriver jamais.
Est-ce que votre métier, c'est pas un peu imaginé pour les autres?
Pour les autres? Non, je pense qu'on d'abord on imagine parce qu'on veut faire, je veux dire, pour nous. L'être humain est égoïste, donc on veut, chacun a une motivation personnelle. Et la motivation de chaque personne, ça peut être différent. Pour moi, c'était de comprendre comment tout ce que je vois tout autour fonctionne. Ce qui nous motive pour aller plus loin, c'est notre curiosité personnelle. Et en fait, c'est une caractéristique de l'être humain, je pense. C'est ça.
Je vais regarder du coup, parce que moi je suis dos au détecteur depuis le début.
Voilà. Attention, tout ça, tout ce qu'on voit, toutes ces collisions et tout ce qu'on a vu, explique en fait la matière visible. Le 5% de ce qui existe, de ce qu'il y a dans l'univers. Il y a un 95% qui est ce qu'on appelle la matière noire et l'énergie noire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'interagit pas avec nous. Et ce qu'on cherche à trouver, de quoi il est composé. On a fait tout ça pour comprendre un petit peu le 5% de la matière. Vous voyez un petit peu le niveau de notre connaissance jusqu'à présent. Tout ça pour dire qu'on veut pousser nos études avec des machines futures, on veut construire de plus grandes machines pour pouvoir monter encore en énergie et pour pouvoir peut-être accéder à des phénomènes qu'on ne connaît pas encore et qui sont en dehors de ce qu'on a comme modèle standard des particules. Donc, Dans la physique des particules, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de comprendre les premiers instants de l'univers. Et ça veut dire quoi, comprendre les premiers instants de l'univers? Comprendre les particules qui étaient formées à cette époque-là, mais aussi quelles étaient les lois qui gouvernaient et qui continuent à gouverner ces particules, comment ils interagissaient l'un avec l'autre. Donc, on sait très bien qu'il y a quatre forces. Il y a la force électromagnétique, il y a la force faible, il y a la force forte et il y a aussi une force qui est la gravité. Et qu'on le sent en marchant, on le sent quand on tombe, on sait qu'on ne peut pas vraiment voler. Et cette force-là reste toujours, n'entre pas dans le cadre du modèle standard des particules. Et donc chaque force a sa propre particule, si vous voulez, qui est médiateur. Et les physiciens, vous savez, qu'ils veulent unifier tout.
Alors que la force électromagnétique a été détectée et existe et représentée par une particule, que la force faible aussi, et que la force forte aussi. Et que dans le tableau du modèle standard, cette espèce de tableau qui représente toutes les particules, chaque force est expliquée par la présence identifiée et détectée d'un élément, quelque part.
Oui.
Mais la gravité, non.
Et ça, c'est une des questions aussi très intéressantes et très fondamentales. Comment essayer d'unifier toutes ces forces? Pour l'instant, la gravité nous échappe. Et ça, c'est un mystère et aussi quelque chose qu'on doit chercher.
C'était, au-delà de l'atome, CERN, le plus grand détecteur de particules au monde, de Tony Ayer et Gilles Mardi-Rossian, avec Antonella Del Rosso, Rosie Nicolaidou, Nuria Catalan Lachelas et Rachel Avramidou. Musique originale, Tony Ayer. Mixage, Éric Boisset. Chargé de programmation, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Merci à Sophie Kéroas, Anaïs Gérard et Nathalie Besson.